Marcel Proust a dit.
Marcel Proust a dit.
Oui. Il a dit qu'une fois. La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être la communication des âmes. Et Baudelaire a dit, la musique creuse le ciel. Pour John Coltrane, la musique est un microcosme de la vie. Alors, l'histoire du jazz est inséparable de l'histoire du peuple noir américain, surtout durant son esclavage, suivi de son émancipation. Les Français, c'est à leur honneur, ont été parmi les tout premiers à avoir accueilli le jazz et reconnu ses qualités. Quand nous habitions en France, nous étions membres du Hot Club de France, fondé par Hugues Banassier dans les années 30, qui existe encore et qui est une sorte de société pour l'appréciation du jazz, qui a une revue, etc. Et un dénommé James Reese Europe, alors bien nommé pour venir ici, un des grands pionniers du jazz, il est venu ici avec sa fanfare pendant la Première Guerre mondiale et les Français étaient ravis. Cette musique était improvisée, n'est-ce pas? Et on lui a apporté des chansons à ce Reese Europe, nouvellement composées. Souvent, en fait, c'était les lamentations au sujet de la souffrance qu'apporte la guerre. Et M. Europe les rendait en jazz. En août 1918, l'orchestre s'est produit au Théâtre des Champs-Élysées et aussi dans les Jardins des Tuileries, devant un public émerveillé. Alors M. Europe est rentré aux États-Unis, décidé à transformer cette musique en grand art, capable de rivaliser avec toute la grande musique. Alors, pendant les années 20 et 30, la France s'est trouvée à un carrefour. La Grande Guerre avait dévasté le pays. Plus d'1 400 000 hommes étaient tombés dans l'espace de 5 ans. Plus d'1 million ont été mutilés ou gazés, ou n'ayant pas la chance de pouvoir se marier. La population n'a pu enregistrer une croissance que de 3%, et cela principalement par l'immigration. En racontant sa jeunesse, Louis Armstrong a fait remarquer que les funérailles à la Nouvelle-Orléans étaient musicalement à la base du jazz. Et je crois que c'est un peu cette tristesse suivie aussi d'une grande joie qui a attiré ce monde français pendant les années du grand deuil. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu des films là-dessus, mais en défilant vers l'église, les orchestres jouaient des morceaux traditionnels, des cantiques exécuté très lentement, mais au cimetière, le corps étant placé au fond du tombeau, les musiciens s'envolaient dans une musique enlevée. Et selon Armstrong, le vrai jazz est né dans cette joie qui suivait les lamentations. Et il disait, je le cite, « Le jazz, littéralement, est ressuscité des morts. Cette musique est sortie du tombeau. C'est à la naissance du jazz, c'est pourquoi il fait revivre les gens. » Alors, les origines du jazz dans ces défilés, dans ce genre de musique de l'église, sont dans le négro, n'est-ce pas? Et alors, c'est une longue histoire, mais les Noirs qui étaient esclaves n'avaient pas toujours le droit de se rassembler pour un culte. Souvent les maîtres d'esclaves n'aimaient pas que son esclave se convertisse. Curieuse logique, logique vraiment dépravés. S'ils se convertissent, c'est que ce sont des hommes avec des âmes et on ne peut plus les traiter en esclaves. Oui, c'est ça. Dans des conditions très curieuses, les Noirs ont adoré le Seigneur clandestinement et ils ont pu créer une musique tout à fait extraordinaire qui maintenant est mondialement connue. J'ai parlé brièvement ce matin du double sens d'un certain nombre de ces morceaux. Il y a un morceau très connu qui s'appelle « Follow the drinking gourd ». Suivre, je ne sais pas comment on dit « gourd » en français, pour boire l'eau là.
Gourd,
voilà, tout simplement. Alors les deux, le côté extrême de cette gourde tout ressemblait aux étoiles. Et il savait que l'étoile du Nord était là où on trouvait la liberté. Alors il chantait cette chanson qui parlait de boire de l'eau, mais en fait qui parlait d'aller s'évader vers le Nord. Ou alors encore Wade in the Water, qui disait que les traqueurs poursuivent ceux qui s'évadent avec des chiens de chasse au flair aiguisé. Les chansons qui sont sur Canaan, I'm on my way to Canaan land. En fait, Canaan, c'était un mot code qui voulait dire le Canada, où l'esclavage était interdit. Bon, voilà, Wade in the Water. Oui, vous. Merci. Ok. Alors, oui. Si seulement je pouvais déchiffrer. La théologie des Noirs partage en général l'héritage évangélique, mais sur certains points, elle est plus soulignée. Par exemple, le ciel n'est pas une idée platonicienne, un avenir lointain, mais un lieu, un endroit géographique, avec ses bâtiments, ses rues et surtout ses personnages, des parents qui ont déjà quitté la terre avec ses malheurs et ses peines. Et en attendant d'y arriver, nous traversons toutes sortes d'épreuves ici-bas. Mais pour les Noirs, même étant esclaves, il y a un secours. C'est bien Jésus-Christ. Jésus n'est pas une abstraction, ni seulement un point de doctrine, mais une personne qui est toujours présente pour accompagner son peuple. Alors, plusieurs héros de l'Ancien Testament ont marché avec le Seigneur. On pense à Abraham, on pense au roi David. Alors, il y a un très beau négro qui évoque un Seigneur qui, lui, marche avec nous. Walk with me, Lord. Won't you walk with me? Et il savait que, quelle que soit l'épreuve, si Jésus était à vos côtés, eh bien, on pouvait trouver la force de traverser l'épreuve. Alors voilà, je ne vais pas chanter parce que déjà la météo est mauvaise. Alors, il y a des choses étonnantes qui se sont passées à l'époque de l'esclavage. La première chose étonnante, c'est que des évangélistes noirs, aussi blancs, sont arrivés pour prêcher l'évangile aux esclaves. Première chose étonnante, parce que d'aucuns pensaient que c'était des gens sans âme, et l'évangile, prêcher l'évangile, c'est une chose dangereuse. Deuxième chose étonnante, c'est que ils ont accepté cet évangile, mais avec grand enthousiasme. Mais le miracle, c'était que ils savaient faire la différence entre le Jésus de la Bible, le Jésus qui avait été prêché, et l'exemple des évangélistes qui n'étaient pas très Jésus. Et alors, en faisant cette différence, ils ont adopté la foi chrétienne. Ils ont, vous savez, ce matin on a parlé de créativité au sein de l'oppression. Ils ont pas changé l'évangile, mais ils ont, j'allais dire, réinterprété l'évangile à la lumière de leur contexte, de leur souffrance, et ils ont pour la plupart pardonné aux hommes blancs tout le malheur qu'ils avaient fait, et ils ont décidé aussi de se tourner vers les oppresseurs, ceux qui persécutaient, et de vivre dans un esprit de pardon. Alors, grande déception, bien sûr, c'est que à la fin de la guerre civile, où il y avait officiellement l'émancipation, on a suivi par une période de, on appelait ça reconstruction, mais en fait c'était une reconstruction très très problématique, surtout dans le sud. Et les belles promesses qui avaient été faites n'ont pas été accomplies. Et alors durant la fin du 19e siècle, les Noirs habitaient dans des conditions vraiment difficiles. Il y avait émancipation, mais il n'y avait pas la fin du racisme, bien au contraire. Alors, même si la musique religieuse des Noirs est à la base de tout le reste, on doit reconnaître plusieurs autres genres de musique qui étaient produites en dehors de l'Église. La musique des ménestrels, mais surtout le blues. Le blues vient de chants qu'on faisait pour le travail. Donc, à la plantation, en cueillant le coton, en travaillant sur les chemins de fer, etc., dans des conditions épouvantables. Il s'agit parfois dans le blues d'une déception sentimentale ou de l'injustice du maître qui maltraite les ouvriers. Le blues stigmatise la condition humaine dans un monde déchu. Mais à son niveau le plus profond, le blues est en lutte avec le problème du mal. Il pose la question, comme on dit chez les théologiens, de théodicée. Le blues, si vous voulez, est une sorte de prédication, un peu comme l'Ecclésiaste, qui dénonce la vanité de ce monde. D'ailleurs, le Coëlette est un grand chanteur de blues, à mon sens, tout comme Job. Évidemment, le plus grand chanteur de blues, je le dis avec respect, dans la Bible, c'est Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsemane, où il demande à son père s'il ne peut pas être épargné cette souffrance. Le blues n'est pas toujours triste, Il y a des blues gays, il y a des blues qui taquinent, il y a des blues qui se moquent. Et puis alors, c'est une musique très populaire aujourd'hui. Le blues est né à la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est vraiment à la naissance du jazz. Le jazz n'a pas de sens sans la base du blues. Alors, là, je ne vais pas vous chanter, encore une fois, pour les mêmes raisons, mais je vais faire un petit blues. C'est une musique extrêmement simple. En fait, il n'y a que deux versets. I hate to see the evening sun go down. I hate to see the evening sun go down. Trois. Because my man has left this town. J'aime pas voir le coucher du soleil parce que mon homme a quitté cette ville. Mais derrière cette déception, cet abandon, il y a aussi la question, mais Dieu, pourquoi tu nous as amenés en Amérique du Nord pour quitter notre pays et après, il semble que c'est toi qui nous as quittés. Alors le blues est une musique qui est très simple, deux versets, deux strophes, et puis trois accords seulement. Le blues, c'est le grand-père du rock, si ça vous intéresse. Thank you. Alors, comme j'ai dit, il existe plusieurs genres de musique qui s'étaient produites en dehors de l'église. Le blues en est un. Un autre s'appelle le ragtime. Le ragtime tient une place spéciale dans l'histoire du jazz. Il a ses origines au 19e siècle, surtout dans le théâtre des ménestrels et vraisemblablement surtout dans le Missouri. Un carrefour entre le nord et le sud et aussi la porte s'ouvrant vers l'ouest, l'endroit permettant la rencontre de plusieurs styles de musique. Et alors, des gens ouvraient des boîtes de nuit un peu partout. Et il y avait toujours un vieux piano. Et autodidacte, beaucoup des pianistes avaient écouté non seulement les chansons populaires du jour, mais aussi Schubert, Mozart et compagnie. Bientôt, une maison d'édition a cru en ce style et a commencé à publier un certain nombre de ses rags. Et alors, les Noirs avaient transformé cette musique très rythmée en une sorte de musique classique, bien entendu afro-américaine, mais une musique qui se voulait légitime, comme ils disaient. Cette musique fait se marier des styles européens avec le blues, avec le gospel, le spiritual. Et le résultat est une musique très très populaire qui est venue partout dans le monde s'installer comme étant une sorte de musique ambassadeur pour les Noirs. Voici un petit rag qui est très amusant. You took advantage of me. Histoire pour expliquer comment tous ces styles ont conflué dans la grande musique du jazz à peu près au début du 20e siècle, surtout dans la ville de la Nouvelle-Orléans. Tout cela s'est mis ensemble dans cette extraordinaire musique qu'on appelle le jazz. Et alors, le plus grand des compositeurs du jazz et à mon sens le plus grand compositeur américain tout court, c'est Duke Ellington, Edward Kennedy Duke Ellington. Cet extraordinaire musicien a commencé avec le ragtime, mais il a vite évolué vers sa vocation première, qui était chef d'orchestre. Et il a su rassembler autour de lui les meilleurs musiciens de l'Amérique. Il a passé la grande part de sa vie à New York. Il y a une statue à son honneur juste à côté d'où habite mon frère, donc on passe devant chaque fois que je vais le voir. Et dans Harlem, qui était cette partie de New York avec ce qu'on appelle la Renaissance de Harlem, on voyait des poètes arriver, des romanciers, des musiciens, des peintres extraordinaires, et on voulait faire valoir la musique noire américaine. C'est depuis Harlem que cette musique qu'on appelle le jazz a vraiment rayonné, non seulement en Amérique, mais partout dans le monde, comme on disait tout à l'heure, avec les Français qui l'ont reconnu et accueilli en premier lieu. Duke Ellington est souvent venu en France. Et je voudrais interpréter deux ou trois morceaux de Duke Ellington pour vous montrer un peu la diversité dont il était capable. Duke disait j'ai trois thèmes dans ma musique. Le premier thème, c'est le divertissement, parce que les gens ont besoin d'être divertis. En anglais, entertain, qui vient du français entretenir, donc on entretient une sorte de conversation, comme disait Proust, les uns avec les autres, en communion. Deuxièmement, faire connaître aux gens l'histoire de mon peuple. Alors, dans beaucoup de compositions, il voulait directement ou indirectement faire connaître non seulement les épreuves, mais aussi les accomplissements, les victoires de ce qu'ont pu faire les Noirs américains. Et troisièmement, la gloire de Dieu. C'était un chrétien qui voulait que sa musique soit à l'honneur du Seigneur Dieu. Alors, je jouerai quelques morceaux de divertissement, mais je terminerai avec un gospel qui est souvent joué dans les boîtes de nuit par des musiciens qui savent rien sur les origines de ce morceau. Il vient d'une composition qui s'appelle Black, Brown and Beige, qu'il a rédigée en 1942. Et les paroles, je ne vais pas chanter, mais les paroles sont de Mahalia Jackson. Et il s'appelle Come Sunday, viens le dimanche. Lord, look down and see my people through. Seigneur, viens vers nous et rencontre ton peuple dans l'épreuve. Voilà. Alors, je termine donc avec Duke Ellington. Thank you.
certaines personnes veulent poser des questions à propos du, justement du jazz. Ça peut être intéressant, j'imagine.
Moi, il y a une question qui m'est venue à l'esprit, c'est du coup, j'imagine que les esclaves n'avaient pas forcément d'instruments sur lesquels jouer. Ils ont commencé par la voix et ensuite, enfin, comment ça s'est développé au niveau instrumental?
Oui, très bonne question. Bon, c'est vrai, ils n'avaient pas d'instruments, leur avait privé de tout ça, mais quand même, ils avaient une mémoire dans les membres. Ils savaient taper sur le bois. Ils prenaient des peaux d'animaux, ils les étiraient. Et donc, et puis alors, le grand miracle, c'est qu'ils ont pris les instruments occidentaux, quoi, européens, trompettes, clarinettes, et ils ont insufflé une nouvelle vie dans ces vieux instruments. Donc, quand tu écoutes, je sais pas, la clarinette de Johnny Dodds ou la trompette de Louis Armstrong, quelqu'un qui est formé au conservatoire, il dit, c'est quoi ça? Mais c'est beau comme tout, parce que c'est une imitation du chanté, mais dans les instruments, donc ils insufflaient. L'histoire des Noirs américains, c'est une histoire d'un renouvellement dans tous les domaines, musique y compris, mais le style de vie spirituelle et tout ça. Donc ça, le manque d'instruments ne les a pas empêchés de faire de la musique. Puis ils savaient encore danser. N'est-ce pas?